Seigneur Dieu, merci pour ta grâce infinie que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour ta bonté à notre égard, ton amour qui dure à toujours. Et Seigneur, ce matin, on est si reconnaissant pour le fait que tu t'es révélé à nous, que tu t'es fait connaître, Seigneur. Et on prie que tu puisses continuer, Seigneur, à te révéler à travers ta parole qu'on va ouvrir ce matin. Que nos cœurs puissent être réceptifs. Que ton Saint-Esprit puisse avoir accès, Seigneur, à nos vies, à notre volonté. Qu'il puisse avoir accès, Seigneur, à nous pousser à obéir, pousser à mettre ta parole en pratique. Seigneur, toute résistance en nous vient la briser. Toute résistance à ta volonté, tout obstacle, Seigneur, à ce que tu puisses accomplir ta volonté dans nos vies, viens l'enlever ce matin. Viens enlever, Seigneur, toute distraction de nos têtes et de nos cœurs pour qu'on puisse être à l'écoute de ta parole. Et donne-moi, Seigneur, de bien exposer clairement, fidèlement, tes Écritures. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie. Amen. Il y avait un couple qui ne s'aimait pas beaucoup l'un l'autre. Ce n'est pas nouveau. Vous en connaissez peut-être dans votre vie. Et en fait, ils se faisaient beaucoup de mal l'un à l'autre. Ça faisait des années qu'ils étaient mariés. Mais le mari n'aimait pas beaucoup sa femme en particulier. Et au point où il avait même fait une liste de choses qu'il exigeait que sa femme fasse, comme une liste de choses à faire. Dans cette liste-là, c'est tellement détaillé, c'était un peu pour contrôler sa femme qui faisait ça, tellement il ne l'aimait pas. Et il y avait des choses comme à quelle heure elle devait se lever le matin pour tout préparer, la liste de choses qu'elle devait faire dans la maison, nettoyer et autres. À quelle heure qu'il voulait avoir son repas le soir quand il arrivait, et des choses qu'elle devait faire, des choses qui l'interdisaient de faire. Et ça a duré pendant des années de temps où il n'y avait aucun amour entre cet homme et cette femme. Et un jour, l'homme, le mari, meurt. Et enfin, la femme pensait être libérée du fardeau de son mari et de toute ses ordonnances et de toutes ses instructions, toutes ses lois à obéir. Et ça a duré quelques années comme ça où elle est demeurée veuve, mais elle a fini par trouver un autre mari. Elle s'est mariée avec un autre homme, mais un homme complètement différent. Un homme qui l'aimait passionnément. Et il faisait plein de choses pour lui démontrer concrètement son amour. Il lui disait toutes sortes de mots doux, il passait du temps avec elle, il faisait des actions concrètes. Vous savez les langages d'amour? Il y en a plusieurs, hein? On sait qu'il y a du temps de qualité, il y en a que c'est des cadeaux, il y en a que c'est des actes de service. Et ce mari-là, c'est comme s'il les avait toutes, il avait tous les langages d'amour à 100% dans sa vie. C'était incroyable. Et un jour, alors que cette femme faisait le ménage d'un tiroir, dans le fond du tiroir, elle trouve la feuille de papier sur laquelle son ancien mari avait écrit toutes les instructions puis toutes les ordonnances, puis les choses qu'il voulait, qu'il exigeait à faire. Puis alors qu'il est en train de regarder cette feuille d'obligation de son ancien mari, il lui est venue une pensée. Elle s'est mise à réfléchir pour se rendre compte que même si son mari était mort, son ancien mari, puis qu'il ne lui exigeait plus de faire toutes ces choses-là, elle réalisait qu'elle avait continué à faire toutes ces choses avec son deuxième mari qui l'aimait, mais plus avec la même attitude et pas pour les mêmes raisons. C'est parce qu'elle avait tellement un délice dans son nouveau mari. Elle aimait tellement son nouveau mari à cause de tout l'amour qui était présent dans leur relation qu'elle faisait néanmoins toutes ces choses qu'elle avait faites pour son premier mari, mais avec une attitude complètement différente. Et vous savez, frères et sœurs, ça peut être la même chose dans notre vie par rapport à notre relation avec Dieu. L'expérience de plusieurs personnes, même ici présentes ce matin, est que leur obéissance à Dieu est comme un devoir à accomplir, comme quelque chose qu'ils n'ont pas le choix de faire. Ça leur est imposé. Et je vous dirais même que beaucoup d'enfants de nos familles chrétiennes, ici à l'Église, se sentent comme ça aussi. Sentent comme si ce qu'on leur exige ou les attentes qu'on a envers eux, tout ce que c'est une liste de choses à faire ou n'à pas faire. La vie chrétienne se résumerait dans leur tête à une liste de choses à faire ou une liste de choses interdites. Certaines autres personnes, ici ce matin, à l'inverse, à cause de leur tempérament peut-être, ou même à cause de leur expérience, voient la grâce de Dieu comme une menace à l'obéissance, ou comme étant peut-être même inefficace pour amener un croyant à obéir à la parole de Dieu. Une menace peut-être d'abuser de la grâce. Si on donne trop de grâce, c'est menaçant parce que là, ça va ouvrir les portes à faire n'importe quoi, à vivre nos vies comme on l'entend, sans tenir compte de ce que Dieu révèle dans les Écritures, ou de prendre la grâce pour acquis. Ou certains autres peuvent la voir, cette grâce, cette même grâce, comme inefficace. En ce que la grâce ne peut pas imposer, ce n'est pas un mécanisme qu'on peut utiliser pour imposer l'obéissance. Puis certains voudraient être capables d'imposer ce genre d'obéissance. Vous savez, ces deux descriptions de personnes, on peut les étiqueter si on veut. C'est peut-être pas les meilleures étiquettes au monde, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire des fois d'étiqueter, mais pour ceux qui voient la grâce comme un devoir, c'est un peu comme le mot religion, finalement. Certains voient la grâce comme une religion, ou voient la vie chrétienne comme une religion, une liste de choses à faire et à pas faire. Et si je performe dans cette liste de choses à faire et à pas faire, je vais pouvoir avoir l'approbation de Dieu et même des autres personnes qui m'entourent. Tandis que dans l'autre cas, où est-ce qu'on peut voir la grâce comme une menace, certains, parce qu'on voit la grâce comme un moyen de se donner la liberté de faire tout ce qu'on veut, mais ici, ça serait comme de l'irreligion. On pourrait étiqueter ça comme de l'irreligion. La vie chrétienne, c'est une vie qui donne la liberté aux chrétiens de faire ce qu'ils veulent, de vivre leur vie qu'ils veulent, comme ils veulent, sans vraiment porter attention, sans vraiment se soucier d'obéir à quoi que ce soit qui est dans les Écritures. La religion, d'un côté, et l'irreligion, de l'autre côté. Et je vous propose ce matin d'examiner un texte qui ne nous parle ni de la religion, ni de l'irreligion, mais qui nous parle de quelque chose de complètement différent, une troisième manière de vivre, une troisième manière de considérer notre vie chrétienne. Et vous l'avez deviné, cette troisième manière, c'est la manière de la grâce. Et c'est un texte qui se trouve dans l'épître de Paul à Tite. L'épître de Paul à Tite, c'est une épître qui fait partie d'un ensemble d'épîtres, les épîtres pastorales. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a écrit trois lettres particulières à des pasteurs ou des collaborateurs très, très rapprochés. Paul avait un collaborateur qui s'appelait Timothée lorsqu'il œuvrait dans les églises dans le temps du Nouveau Testament. Lorsqu'il allait fonder des églises, il a fait quelques voyages missionnaires, l'apôtre Paul, et lorsqu'il fondait des églises et qu'il faisait ces voyages missionnaires-là, il amenait des gens avec lui, des collaborateurs qu'il utilisait, qui étaient utilisés par Dieu. Il travaillait en équipe finalement pour œuvrer dans le ministère, enseigner la parole, prêcher l'Évangile. Et Timothée était l'un de ces collaborateurs-là, et Tite en était un autre. Et Paul a écrit trois lettres, deux à Timothée, un et deux Timothée, et la lettre à Tite, c'est les trois seules lettres dans le Nouveau Testament qui sont écrites à des collaborateurs, où c'est adressé à une personne, des collaborateurs de Paul. C'est vrai, il y a la lettre à Philémon aussi, mais la lettre à Philémon n'était pas un collaborateur de Paul, un ouvrier avec Paul comme tel. Donc, ces trois lettres-là, on les appelle les épîtres pastorales parce qu'elles visent, dans ces trois lettres-là, Paul est en train de donner des instructions à Timothée et à Tite sur comment organiser l'Église et comment organiser les rencontres d'Église et quoi dire aux gens dans l'Église. Il venait de fonder des nouvelles Églises et il avait laissé Timothée et Tite comme responsables dans quelques-unes de ces églises-là. Et il leur écrit pour leur dire un peu, de leur donner des instructions sur maintenant, qu'est-ce que vous devez faire, étant donné que vous avez la nouvelle responsabilité de ces églises-là. Et Tite est l'une de ces épîtres pastorales, donc. Et on voit dans l'épître de Tite Il y a juste 3 chapitres. Dans le premier chapitre, Paul donne les instructions à Tite, hein, au verset 5 du premier chapitre. On lit « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Et donc ici, Tite avait une responsabilité, c'est d'établir des anciens dans chaque ville de l'île de Crète. Des églises avaient été fondées sur cette île-là. Probablement, on ne sait pas vraiment, on n'a pas de détails, mais que Paul était allé sur l'île de Crète à un moment donné, avait fondé des églises. Peut-être que ce n'est même pas Paul qui les avait fondées. Mais d'une manière ou d'une autre, Paul et Tite s'étaient rendus là. Paul était parti et avait laissé Tite sur cette île-là. Et maintenant, il lui donne toutes sortes d'instructions sur comment fonder, comment fortifier les églises. Premièrement, établis des anciens, établis des pasteurs dans cette église-là. Et voici aussi comment tu devras les établir. Tu ne peux pas prendre n'importe qui pour placer comme ancien ou comme pasteur. Et il donne des instructions à savoir comment choisir de tels hommes, comment choisir des pasteurs. Et on voit ça dans le chapitre 1. Et une des choses, c'est qu'il devait, entre autres, être capable d'enseigner la vérité d'une manière authentique. De ne pas enseigner n'importe quoi, mais d'enseigner vraiment la vérité qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et au chapitre 2 de Tite, on s'approche du texte qui nous intéresse ce matin, où Paul va nous dire, c'est ni la religion, ni l'irreligion qui compte ou qui constitue la vie chrétienne, mais c'est la grâce de Dieu. Dans le chapitre 2, on voit que Paul donne une liste de choses à Tite qu'il doit enseigner aux gens de l'Église. Et justement, en lisant cette liste-là, des versets 1 à 10 dans le chapitre 2, on peut comme réagir en disant, « Coudonc, c'est tout ça la vie chrétienne? Est-ce que c'est juste une liste de choses à faire et à ne pas faire, comme finalement une religion? » Et comme tant de personnes dans l'histoire de l'Église ont interprété la vie chrétienne comme juste une liste de choses à faire et à ne pas faire. Par exemple, dans le titre 2, 1, Paul dit, « Pour toi, dis ce qui est conforme à la sainte doctrine. Dis que le vieillard doit être sobre, respectable, sensé, saint dans la foi, dans l'amour, dans la patience. » Voici ce que les vieillards doivent faire, ce groupe de personnes-là. Dit au verset 3 que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Pas juste l'intérieur, mais aussi l'extérieur, donc leur manière de paraître. Afin d'apprendre aux jeunes femmes, au verset 4, à aimer leur mari. Il s'adresse aux personnes plus âgées, les hommes, les femmes plus âgées, les jeunes femmes, au verset 4. Au verset 6, il dit « Exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tous égards. » Voici comment les jeunes gens doivent se comporter, doivent se conduire. Au verset 9, « Exhorte les esclaves à être soumis en tout à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisants, ainsi de suite. » Et en lisant ce texte, on peut avoir le sentiment que, coudonc, c'est vraiment ça, la vie chrétienne, c'est une religion, c'est une liste de choses à faire, ou à ne pas faire. Et c'est là qu'au verset 11, Paul veut justement éviter qu'on ait cette déduction-là que la vie chrétienne, c'est la religion. Et au verset 11 à 14, il va nous décrire vraiment c'est quoi la vie chrétienne. En une seule phrase, dans le grec, original grec, les versets 11 à 14 forment une seule phrase, une majuscule au début du verset 11, et un point à la fin du verset 14. C'est vraiment intéressant. Et on lit la chose suivante. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. » Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Au verset 15, on lit « Ainsi donc dois-tu parler, exhorter, reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Et donc, on voit tout de suite que Paul, ce qu'il est en train de dire à Tite, c'est pas « Maintenant, je veux que tu établisses une religion dans les églises de Crète, puis tu vas leur dire quoi faire, puis tu vas leur dire quoi pas faire, puis je veux que tu... » leur disent avec autorité. Ça le dit au verset 15. Avec une pleine autorité. Mais ça serait passé complètement à côté du message du chapitre 2, versets 11 à 14. Lorsque Paul dit au verset 15, « Ainsi tu dois parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité. » À quoi il fait référence? Bien, aux exhortations qu'il veut que Tite donne aux chrétiens de l'Église, mais certainement à ce que Paul vient de décrire au verset 11. « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et c'est cette grâce-là, au verset 12, qui nous enseigne à renoncer et à vivre dans le siècle présent. Donc, vous voyez, ce passage nous montre l'impact de la grâce de Dieu dans nos vies et la différence que la grâce peut faire dans notre manière de vivre notre vie chrétienne. On va voir deux choses en particulier par rapport à la grâce de Dieu. La puissance et l'impact de la grâce de Dieu dans nos vies. C'est que la grâce de Dieu, premièrement, nous permet de vivre pour Dieu. Elle rend ça possible. La grâce de Dieu nous permet de vivre pour Dieu. Et deuxièmement, la grâce de Dieu nous pousse à vivre pour Dieu. Nous enseigne, nous pousse à vivre pour lui. Nous encourage, nous motive. Donc, c'est les deux choses qu'on va voir qui sont le résultat de la grâce de Dieu et l'impact et la puissance de la grâce de Dieu dans nos vies. Elle nous permet de vivre pour Dieu, premièrement, et deuxièmement, elle nous pousse à vivre pour lui. Au verset 11, on lit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et on peut se poser la question, à quoi Paul fait allusion aussi lorsqu'il parle de la grâce de Dieu qui est source de salut pour tous les hommes? Et c'est une bonne question à se poser. Vous voyez, quand la grâce de Dieu a été révélée, c'est révélé, le sens de révéler, c'est quelque chose qui était caché avant, qu'on ne pouvait pas voir, qui était comme dans les ténèbres, mais pas dans les ténèbres de manière négative, mais qui était juste pas dans la lumière, qui était caché, mais qui maintenant a été dévoilé ou révélé, ou qui est apparu dans la lumière. Quelque chose qui était caché, qui est maintenant dévoilé. Et ce sens de manifester, du mot manifester, ce sens-là se retrouve à plusieurs endroits dans les Écritures, avec la même idée. Quelque chose de caché qui a été révélé. Mais c'est quoi qui était caché et qui a été révélé? Quand ça dit « la grâce de Dieu a été révélée », à quoi au juste on fait référence? Et certainement, la grâce de Dieu qui a été révélée fait référence à la première venue de Jésus-Christ, à l'incarnation du Fils de Dieu et à toute son œuvre sur la terre et principalement à la croix. La grâce qui a été révélée dans le verset 11 fait certainement référence à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et juste pour vous démontrer cette chose-là, on va sauter au verset 14. Dans le verset 13, Paul parle de Jésus-Christ et ça l'amène à dire qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. Et donc, de quelle manière la grâce de Dieu a été démontrée. Mais ça a été démontré dans le fait que Jésus est venu sur terre, au verset 14, et qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Jésus, c'est la grâce de Dieu manifestée. C'est ce qui était caché dans l'Ancien Testament, que les prophètes attendaient avec anticipation la promesse d'un Messie qui viendrait et qui, dans le Nouveau Testament, est venu dans la personne de Jésus-Christ. Est venu, dans les paroles de Jésus lui-même, pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et le verset 14 reprend ce thème de la mission de Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous. S'être donné lui-même pour nous racheter de toute iniquité. Ça rappelle aussi l'idée de s'être donné lui-même, l'idée de l'Ancien Testament, où un animal était donné pour le péché d'un homme. Quand un homme avait péché, Dieu avait ordonné dans l'Ancien Testament qu'au lieu que ce soit cet homme qui meure pour son propre péché, qu'on amène un animal pour prendre la place de cet homme-là. Le sacrificateur mettait la main sur l'animal et on égorgeait l'animal, on le sacrifiait à la place de l'homme. Et donc, c'est l'idée ici qu'on voit dans le verset 14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter. On a déjà enseigné sur l'idée de rachat, l'idée de rançon, dans les prédications du dimanche matin, mais juste pour vous donner un rappel de que signifie finalement l'idée de racheter, l'idée d'une rançon. Mais c'est l'idée d'une dette. C'est l'idée que chaque être humain, chaque croyant, avant de venir à Jésus, avait une dette parce qu'on était pécheur. Ce péché dans nos vies était comme une dette envers Dieu. Et on était esclave de notre propre péché. Le péché était maître sur nous. Et Jésus, en donnant sa vie, il a comme payé la dette ou payé la rançon. Il a payé notre dette, la dette de notre péché. Il nous a libérés de l'esclavage du péché. Il nous a délivrés de ce maître-là qui était le péché et qu'on était obligé d'obéir. Donc Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Iniquité, c'est de tout ce qui était contre la loi, de nous racheter du fait qu'on avait brisé la loi de toutes les manières possibles. Les commandements de Dieu, chacun de nous, la Bible dit, nous les avons brisés de toutes les manières possibles. Qu'on brise un commandement ou plusieurs commandements, la Bible dit, nous les avons tous brisés. Parce que toute la loi se résume dans un commandement, et même un deuxième, Jésus dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si on brise n'importe quel des commandements, on a brisé ces deux premiers-là. Et donc, Jésus, la grâce de Dieu qui a été révélée, qu'est-ce que cette grâce-là? C'est Jésus qui s'est donné lui-même pour nous. C'est Jésus qui est allé à la croix à notre place afin de subir notre condamnation. Et le texte nous dit qu'il a fait pour deux raisons. Jésus a fait ça pour nous racheter de toute iniquité et deuxièmement, pour nous purifier pour lui-même, afin de faire de nous un peuple qui lui appartienne. L'objectif du don de Jésus, pourquoi Jésus est allé à la croix pour donner sa vie? C'est pour nous racheter, bien sûr, mais c'est aussi pour nous purifier, enlever complètement notre péché et nous faire devenir ses enfants. Il a fait de nous un peuple qui lui appartienne, un peuple spécial, le texte nous dit. Et non seulement un peuple qui lui appartienne, mais dans le but qu'on soit un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Dans le verset 14. Et donc, on ne passera pas plus de temps sur ces textes-là, mais c'est juste pour comprendre exactement à quoi on fait référence. Quand le verset 11 nous dit « La grâce de Dieu a été manifestée », ce qu'on comprend, c'est que la grâce de Dieu, c'est Jésus lui-même qui est venu. C'est Jésus qui a été manifesté. C'est Jésus qui est venu sur terre, qui est apparu et qui a fait tout cela pour nous. Et dans le verset 11, on lit « La grâce de Dieu a été manifestée et cette grâce-là est une source de salut pour tous les hommes. » Une meilleure traduction serait de dire « La grâce de Dieu a été manifestée et elle apporte le salut. Elle offre le salut à tous les hommes. » On sait que tous les hommes ne seront pas sauvés. Donc, d'essayer de comprendre ce verset-là en disant que tous les hommes vont être sauvés, hein, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. D'essayer de comprendre ça comme voulant dire que tous les hommes, toutes les femmes du monde, de tous les temps, vont être sauvés, vont recevoir le salut, ça serait vraiment tordre le sens de ce passage-là. Parce que les Écritures, partout dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, nous montrent que le salut n'est pas universel, sans condition. Il faut croire. Et on voit ça très clairement dans le prochain chapitre, le chapitre 3 de Tite, au verset 8, où Paul dit à Tite, « Cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus afin que ceux qui ont cru à Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. » Vous voyez, ce n'est pas la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ils n'ont pas besoin de rien faire. Qu'ils soient méchants ou pas, qu'ils se repentent ou pas, qu'ils placent leur confiance en Jésus ou pas, la grâce de Dieu va les sauver. Ce n'est pas ça le sens. Non, les hommes doivent croire et mettre leur confiance en Dieu. Et justement, les versets 3 à 7 nous décrivent très bien la grandeur de tout ce que la grâce de Dieu permet dans le salut, dans notre salut. Au verset 3, chapitre 3, verset 3, on lit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissant, égaré, asservi à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Paul est en train de décrire notre condition avant de rencontrer Jésus, avant de recevoir son salut par la grâce qui a été révélée et manifestée. Mais au verset 4, il dit, « Mais lorsque la bonté de notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par quoi? Par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Vous voyez, la grâce de Dieu ne peut pas s'acheter. La grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir par nos propres efforts. Le texte ici est tellement clair. Alors qu'on était si loin de Dieu, nous haïssant les uns les autres, caractérisés par la méchanceté, l'envie, odieux, par toute espèce de désir et de passion qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu nous a aimés. Sa bonté et son amour est apparu au verset 3, 4. De la même manière que la grâce de Dieu a été manifestée, elle est apparue. C'est la bonté et l'amour de Dieu. Pas à cause des œuvres de justice qu'on aurait faites, pas à cause de quoi que ce soit que moi ou toi on aurait pu faire. C'est impossible. On ne cherchait même pas à faire quoi que ce soit pour être sauvé. On est en train de fuir loin de la face de Dieu. Romains 3 nous dit « Nul ne cherche Dieu ». Et c'était notre état. Mais à cause de la bonté de Dieu, lorsque sa bonté et son amour ont été manifestés pour tous les hommes dans la mort de Jésus-Christ à la croix, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit, il nous a donné une nouvelle vie dans le Saint-Esprit qui a répandu sur nous. Il nous a justifiés par sa grâce. Et c'est pourquoi le chant « Grâce infinie » a été écrit. C'est parce que c'est absolument impossible de pouvoir comprendre la grandeur. C'est une grâce infinie. En anglais, « Amazing Grace ». C'est incroyable. Monsieur Lemoine, qui était un pasteur ici dans les années passées, il dirait « C'est mirobolant. C'est une grâce mirobolante, époustouflante. On peut pas la comprendre. On peut pas la concevoir avec notre esprit limité. » Et cette grâce-là nous appelle chacun d'entre nous à venir à la croix, à recevoir ce salut. Et il y a certainement des gens ici ce matin qui n'ont jamais expérimenté cette grâce mirobolante-là. Et j'aimerais te dire, si tu es ici ce matin, puis tu te poses la question, de quoi est en train de parler là, une grâce mirobolante? C'est quoi qui est si extraordinaire dans le fait qu'un homme, il y a 2000 ans, est allé sur la croix mourir à moitié nu, puis qu'on l'a mis dans un tombeau qui a été fouetté, percé? Il me semble que ça témoigne plus d'un homme qui n'a pas beaucoup pour lui dans la vie, tu sais, comme qui n'a pas grand-chose, en anglais, comme on dit, qui root pour lui, qui n'a pas grand-chose de valeur. Quelqu'un qui finit sa vie sur une croix. Qu'est-ce qui est si extraordinaire? Et peut-être que tu es là ce matin, puis c'est la réflexion que tu as ce matin. Et ça démontre que tu n'as pas encore répondu à l'appel de la grâce. Ça démontre que la grâce est encore là en train de t'appeler. Et tu peux y répondre, et je t'invite à y répondre ce matin. Je t'invite à répondre à cette grâce mirobolante-là. Le moyen d'y répondre, c'est de mettre ta confiance en Jésus-Christ. Par tes propres efforts, tu ne réussiras jamais à payer la rançon ou la dette que tu as pris contre Dieu à cause de ton péché. Tu ne pourras jamais, par la religion ou les efforts humains, obtenir ce pardon de Dieu. Peut-être tu te dis, oui, mais moi, je n'essaie même pas d'obtenir le pardon de Dieu par mes efforts humains. Moi, je pense que je n'ai juste pas besoin d'être sauvé, pas besoin du salut. Premièrement, je n'ai jamais offensé Dieu aussi gros que ça, que tu es en train de le dire. Puis Dieu m'aime tellement. C'est une pensée populaire. Je ne dis pas que c'est complètement étrange que tu aies cette pensée-là, mais c'est une pensée populaire de dire que Dieu m'aime tellement qu'il ne va jamais me juger pour mes péchés. Voyons donc, on nous a toujours dit que Dieu a un amour infini, Dieu a une grâce infinie qui ne va jamais nous juger. Ça serait l'irreligion. Vous voyez, face à l'appel de la grâce de Dieu, vous pouvez réagir de deux manières. Soit réagir en vous disant, je vais embarquer dans la religion, essayer de l'acquérir par moi-même. Ou vous pouvez dire, c'est quoi, j'en ai même pas besoin, je vais vivre ma vie comme je le veux. Puis ça serait l'irreligion. Mais ces deux notions-là ne pourront pas être des moyens par lesquels tu peux répondre à l'appel de la grâce. La grâce, c'est complètement autre chose. La grâce, ce n'est pas la religion ou l'irreligion. La grâce, c'est de dire, il y a une personne qui a tout fait pour moi, alors que moi, je voulais lui cracher au visage, que j'étais l'un de ceux qui le crucifiaient à la croix et qui leur dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La grâce, c'est de répondre par la foi à cette personne qui est Jésus, de placer ta confiance en lui. Et je t'invite à placer ce matin ta confiance en Jésus et de répondre à l'appel de sa grâce. Maintenant, ce matin, il y a peut-être aussi, en fait, il n'y a pas peut-être, autant que ce matin, il y a des gens qui n'ont peut-être pas expérimenté la grâce de Dieu et qui ont besoin de répondre à son appel, il y a certainement beaucoup de personnes ce matin qui ont déjà expérimenté la grâce infinie de Dieu, mais qui vivent comme si elle avait expiré. Je parlais avec Sylvie, notre secrétaire, cette semaine, justement, des dates d'expiration sur les produits qu'on a. Tu sais, je suis venu dans le frigidaire, puis on a un frigo ici dans la cuisine à l'église, puis vous ne croiriez pas toutes les choses qui sont laissées là pendant des semaines et des semaines et des semaines. Des restes de lunch, des fois, ou des jus, ou toutes sortes d'affaires. Puis, il y avait justement, ça faisait plusieurs semaines que je voyais un pot de crème Natrelle, tu sais, là, faite avec la vraie crème, là, aromatisé là, à la vanille. Ça faisait, je ne vous niaise pas, des mois que ce pot-là était dans le frigo dans l'église. Chaque fois que j'ouvrais le frigo, je voyais le pot Natrelle. Je voyais le pot Natrelle. Puis moi, j'aime ça, cette crème-là, aromatisée à vanille. C'est quelque chose que je mets tout le temps dans mon café. Puis j'avais le goût. J'ai dit, peut-être que je pourrais me faire un café puis mettre pot de crème Natrelle, tu sais, mettre ça là-dedans, ça serait vraiment génial. Ça serait comme, pas exactement comme Joël Delamort sait faire des cafés, comme Mathieu Fortin nous a si bien dit il y a deux semaines. Joël, il prend son café noir. Fait que mettez pas de crème aromatisée vanille. Ça fait juste scraper le goût du café, selon Joël. Mais moi, je suis pas rendu là encore dans mon expérience de café. Fait que j'ai dit, pourquoi pas? Je prends le pot de crème, je regarde la date d'expiration. C'était écrit 18 août 2013. Ah! J'étais tellement déçu. Fait que je m'en vais voir Sylvie, juste pour deuxième évaluation. Tu sais, voir si je devrais-tu la prendre ou pas. T'sais, j'ai quand même ouvert le pot, j'ai senti, ça sentait le sucre. C'est quand même bon signe. C'est un crème aromatisée à vanille. Je dis, Sylvie, qu'est-ce que tu penses, Sylvie? Cette crème-là, est-tu bonne? Ça dit 18 août 2013 sur le pot. Est-ce qu'elle est encore bonne? Est-ce que je devrais la mettre dans mon café? Sylvie me regarde, elle dit, « C'est quoi cette affaire-là avec cette nouvelle génération-là de jeunes? C'est quoi que vous pensez? Qu'à la date d'expiration, la crème a une conscience pour se dire, « Pouf! Je suis plus bonne, tu sais? » Comme si à cette date-là, « Pouf! » Je vire au vinaigre ou je vire comme dans une genre de toute motonneuse et... Ben non, tu sais, les compagnies sont passées, la technologie n'est pas assez évoluée maintenant pour que les crèmes ou que les produits sachent c'est quoi leur date d'expiration pour les faire expirer. Elle me dit, ben non, prends ça, ce crème-là, il n'y a pas rien là, prends ça, il n'y a pas de problème. C'est comme le yogourt, hein? On voit la date d'expiration, c'est la date d'aujourd'hui. Moi, je le prendrais encore si c'est la date d'aujourd'hui. Mais si c'est daté de hier, là, ça commence à être touchy. Mais on le sait bien que ça peut être bon encore pendant deux semaines. Mais vous savez quoi? On a le même réflexe avec la grâce de Dieu en tant que chrétien. La grâce de Dieu qui a été révélée il y a 2000 ans est encore bonne aujourd'hui. Il n'y a pas de date d'expiration sur la grâce de Dieu. Puis même que c'est intéressant, la grâce de Dieu que vous avez, qui vous a fait recevoir le salut il y a 20 ans, à votre conversion, lorsque vous avez la journée que vous avez reçu le salut, il y a peut-être 20 ans, il y a peut-être 15 ans, il y a peut-être 5 ans, il y a peut-être une semaine, elle n'a pas expiré la journée de votre conversion. Mais pourtant, en tant que chrétien, on approche, on pense à la grâce de Dieu comme si elle avait une date d'expiration qui est la date de conversion. C'est comme la grâce de Dieu m'a donné le salut, puis après ça, là, elle s'en va, elle expire. Là, je suis pris à travailler moi-même pour mon propre salut. Là, ça dépend de mes efforts. C'est comme le salut par grâce, mais l'assurance du salut par les œuvres ou la sanctification par les œuvres. On te donne le salut par grâce, tu n'as rien à faire, mais si tu veux le garder, là, il faut que tu performes, mon petit gars. Comme si la grâce de Dieu avait expiré. Et on tombe dans les deux mêmes pièges, dans la religion ou l'irreligion. Soit qu'on vit comme quelqu'un qui pense que la grâce de Dieu n'a plus d'effet, est expirée, puis maintenant je dois faire mes propres efforts, ça c'est la religion. Ou on prend la grâce de Dieu pour acquis. Et on en voit beaucoup qui se disent chrétiens, qui disent qu'ils sont venus à Jésus, qu'ils ont reçu le salut en Jésus-Christ, qu'ils ont mis leur confiance en Jésus. Mais quand on regarde leur vie, on ne pourrait pas deviner qu'ils sont chrétiens. Il n'y a rien dans leur vie qui nous donne un indice qui serait chrétien. Et c'est une manière, finalement, de vivre dans l'irreligion, de penser, de s'imaginer que la grâce de Dieu aurait expiré. Maintenant, je peux faire ce que je veux. J'ai mon ticket pour le ciel. Je n'ai plus besoin de conformer ma vie nullement à l'Évangile ou à la parole de Dieu. Je peux vivre ma vie comme je veux. Et c'est le temps pour toi, si tu es dans la religion ou l'irreligion, de comprendre que la grâce de Dieu n'expire pas. Elle a bel et bien été révélée, puis elle permet à tous les hommes la possibilité de venir à Dieu et de vivre pour Dieu. Mais elle n'expire pas après cela. Elle ne devient pas moisie. Non, la grâce de Dieu nous permet de vivre pour Dieu, mais c'est cette même grâce-là, le texte nous dit, qui nous enseigne à vivre pour lui plaire. Elle nous donne la possibilité de venir à Dieu et de vivre pour lui. Puis c'est cette même grâce-là qui nous motive puis qui nous pousse à conformer nos vies à sa parole. Puis on va voir dans les prochains versets que la manière que la grâce de Dieu nous pousse à plaire à Dieu, nous pousse à vouloir lui obéir, c'est d'être un peu comme notre professeur. Au verset 12, on lit « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent » d'une manière sensée, juste et pieuse. Ici, c'est intéressant de juste s'arrêter parce que on ne le voit pas dans la Bible en français, mais dans la version grecque de ce texte-là, moi, je ne suis pas un gars fort sur le grec, je ne viendrai pas vous dire des mots de grec, mais ce qui est au moins intéressant, c'est de voir que la manière dont la phrase est écrite dans le grec, c'est une phrase qui met l'accent sur le verbe « vivre pour Dieu ». Il y a deux choses ici qu'on nous dit que la grâce veut nous enseigner. Voici comment la grâce veut nous pousser à vivre pour Dieu, à vivre pour lui plaire. C'est en nous enseignant quelque chose. Et le texte nous dit « nous enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises » et deuxièmement, « à vivre dans le siècle présent ». Mais ici, le texte dans le grec, c'est plus comme « non, la grâce » nous enseigne à vivre. L'accent du texte est mis sur vivre. La grâce veut nous enseigner à vivre dans le siècle présent d'une certaine manière, tout en renonçant. Mais l'accent du texte, c'est vraiment vivre pour Dieu, mais tout en faisant aussi d'autres choses. C'est, vivre a des implications, et l'une de ces implications-là, c'est de renoncer à un certain nombre de choses. Donc la grâce, premièrement, nous enseigne à vivre d'une certaine manière, tout en renonçant à un certain nombre de choses, et au verset 13, on lit, « tout en attendant aussi quelque chose ». Donc, voici donc la manière dont la grâce nous enseigne à vivre pour Dieu. Il y a trois mots qui sont utilisés ici, dans le verset 12. Premièrement, la grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, deuxièmement, d'une manière juste, et troisièmement, d'une manière pieuse. Sensé, c'est l'idée de sage. C'est l'idée d'une manière modérée. C'est l'idée de ne pas être dans des extrêmes. C'est l'idée d'être maître de soi-même. Si, ça paraît quand quelqu'un vit, a une passion pour quelque chose dans sa vie, là, ça peut être les autos, il fait tout pour s'acheter des nouvelles voitures ou une nouvelle voiture, puis quand il l'a, il va la modifier, il va dépenser de l'argent, il va dépenser du temps pour augmenter la puissance du moteur, il va mettre une affaire en arrière qui fait un super vacarme, comme ça, quand il se promène sur Maloney, tout le monde peut voir qu'il est dans une auto modifiée. Je donne un exemple comme ça, là. Ça paraît quand quelqu'un vit pour quelque chose, est passionné pour quelque chose. Puis ici, l'idée, c'est que Dieu, la manière dont il veut qu'on vive, la manière dont la grâce veut nous enseigner à vivre, c'est pas d'une manière déséquilibrée ou avec des passions comme ça qui sont déséquilibrées, mais d'une manière sobre, d'une manière sage et sensée. Deuxièmement, la grâce veut nous enseigner à vivre d'une manière juste et droite, qui correspond à la justice de Dieu, d'une manière honnête, d'une manière qui, en anglais, c'est le mot « righteous ». C'est pas, il n'y a pas de méchanceté ou de malhonnêteté. Ça fait référence à nos relations les uns avec les autres. On est authentique les uns avec les autres, intègre. On est honnête. On est juste dans notre conduite les uns avec les autres. Mais troisièmement, le texte va encore plus loin. C'est pas juste une bonne manière morale de vivre notre vie, comme de ne pas être trop extravagant nous-mêmes dans notre vie ou d'avoir des bonnes relations les uns avec les autres. Tout le monde peut vivre de cette manière-là, en quelque sorte, à cause de la grâce commune de Dieu. Puis ce n'est pas juste un standard moral horizontal humain. Voici comment la grâce de Dieu nous enseignerait de vivre. Ça serait de juste pas se faire du tort les uns les autres puis faire sûr que tu es une bonne personne toi-même. Non. Troisièmement, la grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le siècle présent d'une manière pieuse. Et ici, ça va encore plus loin, parce que pieuse, c'est le sens d'être attaché à Dieu. Ça fait référence à la piété. La manière dont la grâce nous enseigne à vivre, c'est de tenir compte de Dieu, de ce qui plaît à Dieu, puis de désirer vouloir plaire à Dieu nous-mêmes dans notre manière de vivre. La grâce nous enseigne à vivre d'une manière qui plaît à Dieu, un respect pour lui. C'est un comportement qui tient compte de Dieu, de ses désirs à lui, de sa volonté, qui cherche à accomplir la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas juste un comportement moral. Notre but ici à l'Église, ce n'est pas juste qu'on soit des bons citoyens, qu'on soit des bons membres de notre société. Non, il y a une dimension verticale spirituelle. Tout ça dépend de la volonté de Dieu pour nous. Et on veut donc connaître et poursuivre la volonté de Dieu, s'attacher à lui. C'est ce que la grâce veut nous enseigner, la manière dont elle veut nous enseigner à vivre. Donc, on vient de voir que la grâce, non seulement nous permet de vivre pour Dieu, elle rend cela possible à cause de Jésus, mais qu'elle nous pousse aussi à vivre pour Dieu. Elle nous pousse, elle nous motive à vivre pour Dieu, en nous enseignant à plaire à Dieu, en nous enseignant à le rechercher ardemment, à rechercher sa volonté ardemment. Mais on ne peut pas vraiment faire tout cela sans se détourner des choses qui sont contraires à Dieu. Et c'est pour ça que le verset nous parle aussi qu'on a besoin de renoncer à quelque chose. Si on veut vivre pour plaire à Dieu, en même temps, l'implication de cela, c'est de devoir renoncer à un certain nombre de choses. De renoncer finalement à tout ce qui est contraire à Dieu. L'un va suivre nécessairement l'autre. On ne pourra pas vivre pour Dieu si on ne renonce pas à tout ce qui déplaît à Dieu. Donc, la grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le siècle présent en renonçant aussi ce qui est contraire à Dieu. Et ici, le mot « renoncer », c'est un mot très fort. C'est le mot qui est utilisé pour parler de quand Pierre a renié Jésus. Vous pourriez dire ici « renier l'impiété ». La grâce nous enseigne à renier, renoncer. C'est comme c'est dire « non ». Pierre, dans son reniement de Jésus, a dit « non, je ne le connais pas ». Des gens lui ont posé la question « est-ce que tu n'es pas aussi l'un de ceux qui suivaient Jésus ?» Pierre dit « non, du tout, je me détache complètement de Jésus. J'ai rien à voir avec lui, je ne le connais pas, je le renie. » C'est un mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament aussi pour plein d'autres sortes, comme Jésus l'utilise à un moment donné pour dire, si vous me reniez devant les hommes, mon Père aussi va vous renier dans les cieux. C'est l'idée d'un rejet total, d'un détachement total, de dire non complètement à quelque chose. Mais ici, ce n'est pas utilisé dans un sens négatif de renier Jésus. C'est l'idée plutôt de renier. Ce qu'on renie, c'est l'impiété et les désirs de ce monde. Le même mot est utilisé au verset 16 du chapitre 1, juste un petit peu avant. Paul est en train de parler des séducteurs ou des gens de mauvaise vie au chapitre 1, puis il leur dit, ces personnes-là qui n'enseignent pas la vérité, au verset 16, il dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient Dieu par leurs œuvres. Leurs œuvres démontrent tout le contraire. Quand ils disent, oui, on connaît Dieu, mais leurs œuvres démontrent tout le contraire, est en train de renier qu'ils sont vraiment croyants. Et donc, l'impiété, un mot qui est dans le texte ici, c'est juste tout ce qui est contraire à Dieu. Si la piété, c'est l'attachement à Dieu, c'est chercher à faire sa volonté, chercher à faire ce qui lui plaît, l'impiété, c'est complètement le contraire. C'est chercher à faire tout ce qui déplaît à Dieu. Et donc, le texte nous dit, si on veut vivre pour plaire à Dieu, il faut renoncer ou renier à tout ce qui lui déplaît. Et aussi, à tout ce qui sont les désirs que le monde, qui sont dans le monde. Vous voyez, le monde n'a pas une vision céleste de la vie, une vision seulement terrestre. Et donc, ce qui pousse les gens, ce qui motive les gens dans le monde, ce sont des désirs strictement terrestres, des désirs d'être reconnus par les autres, des désirs de succès, des désirs de gloire personnelle, de richesse, d'approbation des autres, ou des désirs de seulement faire ce que je veux faire, je veux être libre, avoir aucune contrainte pour faire ce que je veux. Ce sont les désirs qui poussent les gens dans notre monde à vivre leur vie comme ils le font. Et le texte nous dit, si vous voulez vivre pour plaire à Dieu, vous devez renoncer à ces désirs. Avoir une vision non seulement terrestre, oui, il faut avoir une vision terrestre, mais aussi une vision céleste. Parce que le péché, le mal, ce n'est pas juste quelque chose qui vient briser nos relations. C'est quelque chose qui nous sépare de Dieu. Et donc, Jésus est venu sur terre mourir à la croix, pas premièrement pour apporter la paix entre nous sur terre, mais pour apporter la paix entre nous et Dieu. Et cette paix entre nous et Dieu va, par implication, produire une paix terrestre. Donc, la grâce de Dieu qui a été révélée nous enseigne à vivre pour plaire à Dieu, tout en renonçant au péché dans notre vie. Mais vous savez, comme moi, que la route peut être très longue. Et on va vivre toutes sortes de défis, vivre même toutes sortes de souffrances, alors qu'on tente de vivre dans ce siècle, de vivre dans ce temps que nous avons sur la terre. Alors qu'on tente de vivre pour Dieu et vivre pour lui plaire en renonçant au mal, il y a toutes sortes d'embûches qui vont arriver. Puis on peut être découragé. On peut même avoir le goût d'abandonner. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul continue au verset 13 pour nous donner un objectif, pour nous donner une raison de ne pas abandonner alors qu'on tente de vivre notre vie pour Dieu, poussé par sa grâce. Et le verset 13 nous dit, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur, le Christ Jésus. » Vous voyez, la grâce de Dieu nous enseigne, au verset 12, à renoncer à l'impiété et au désir du monde, à vivre dans ce siècle, dans le siècle présent, d'une certaine manière, mais tout en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et sauveur. Jésus va revenir et lors de son retour, la gloire de Dieu va briller comme le soleil. Ça va être incroyable. On n'aura jamais vu ça. Par contre, son retour n'est pas encore arrivé. Donc, la grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent, aujourd'hui même, pendant notre vie sur terre, en attendant avec une espérance certaine l'apparition de la gloire de Jésus. Ici, quand on parle de bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire, ce n'est pas comme on espère, mais on n'est pas sûr. C'est une espérance certaine. C'est une conviction qu'on a que Jésus va revenir. Et la Bible, partout dans le Nouveau Testament, nous parle de cette espérance convaincue que nous avons. qu'un jour, Jésus va revenir. Et on a chanté juste avant le message, « Reviens, mon cœur t'attend, mon cœur languissant, désire, te cherche. Reviens, à mon cœur ôter ses larmes, ravir ses chambres. » Et c'est exactement le sens de l'attente qu'on a, qui nous est décrite ici. La grâce de Dieu nous pousse à attendre avec cette espérance certaine que Jésus revienne. Donc, la grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent en attendant avec espérance l'apparition de la gloire de Jésus. Comment tout cet enseignement se traduit-il dans la vie de tous les jours? C'est ma prochaine question, parce que c'est beau maintenant d'avoir une meilleure compréhension de ce que la grâce de Dieu fait pour nous. Juste un petit court résumé, la grâce de Dieu, on l'a dit, nous permet d'avoir le salut, nous offre le salut. Mais deuxièmement, la grâce de Dieu nous pousse à vivre conformément à l'Évangile, nous pousse à vivre pour plaire à Dieu en renonçant au monde et en attendant le retour de Jésus. Mais de quelle manière est-ce que ça peut se traduire dans la vie de tous les jours? Une des choses sur lesquelles moi je veux grandir dans ma manière de prêcher, le verset 15 nous dit, « Ainsi tu dois parler, exhorter, reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » C'est Paul qui dit à Tite, « Voici comment tu dois prêcher, voici comment tu dois enseigner à l'Église. » Et moi-même, en tant que pasteur, j'ai besoin de grandir dans ma manière de prêcher puis d'enseigner. Et une des choses sur laquelle je veux continuellement travailler, parce que ma tendance, c'est d'être, si vous ne l'avez pas remarqué, vous allez le remarquer, mais c'est d'être très intellectuel, très, très concept, très, tu sais, genre, on parle de plein d'idées dans les nuages, puis ah, c'est tellement le fun de réfléchir sur Dieu. C'est tellement agréable de penser à la grâce de Dieu, penser à tout ce que la grâce produit dans nos vies, puis on s'en retourne chez nous, puis ça n'a aucune répercussion dans nos vies. Mais vous voyez, un de mes travaux ce matin, c'est de vous montrer comment ça peut faire une différence dans votre vie cette semaine. Puis je veux travailler là-dedans dans ma manière de vous apporter la parole, c'est de vous aider à comprendre comment ça peut se traduire concrètement dans notre vie cette semaine. Puis j'ai pris un exemple, il est déjà 11h25, mais prenons l'exemple du service. Le service dans l'Église. Comme on a vu, on peut approcher la question du service ou de s'impliquer dans l'Église. Si vous ne le saviez pas, il y a beaucoup de besoins dans l'Église ici. C'est une Église qui grandit, c'est une Église qui est en croissance. Puis il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être faites. Puis l'apôtre Paul, partout dans plein d'autres Écritures, il appelle les chrétiens à servir. Puis la grâce de Dieu, hein, on l'a lu dans le verset 14, nous dit que Jésus s'est donné pour nous, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter, de nous purifier pour qu'on soit un peuple, quoi? Zélé pour les œuvres bonnes. Donc, c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Dieu veut qu'on serve. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de besoins dans l'Église. Je vous encourage à considérer, si vous ne l'êtes pas déjà, vous impliquer dans un service à l'Église, vous impliquer dans un ministère, selon le don que Dieu vous a donné. Il y a l'enseignement, il y a beaucoup de ministères qui vont reprendre, entre autres, un programme d'enseignement pour nos enfants, qui se réunissent là, dans les classes au deuxième. À chaque dimanche, il y a des gens qui prennent du temps pour les enseigner. Ça, c'est un gros ministère. Et il y a toujours besoin de personnes qui s'impliquent dans ce ministère-là. Mais il y a tellement d'autres ministères. Il y a des choses qu'on peut faire dans le ménage. Il y a des choses qu'on peut faire dans la prière. Un ministère de prière qu'on peut avoir. Il y a plein, plein de ministères. Il y en a des ministères qui sont cachés. D'autres qui sont visibles, comme ceux qui sont impliqués dans la louange ou ceux qui sont placeurs ou autres. Mais il y a tellement de besoins. Et je vous encourage à considérer vous impliquer et servir. Mais justement, de quelle manière vous allez le faire? Est-ce que vous allez approcher la question du service, de considérer ça dans votre cœur, dans la prière, avec le concept de grâce expirée? Soit un service religieux, par exemple, qui serait décrit par quelqu'un qui va servir d'une manière comme si Dieu nous devait quelque chose, comme souvent caractérisé par un activisme où on cherche l'approbation des autres, ou si on performe assez on sent qu'on va avoir l'approbation des autres et de Dieu parce qu'on a performé dans notre service. Ça, ça serait approcher la question du service avec l'angle religieux. Qu'il n'y a pas de grâce là-dedans. Ou sinon, si vous faites ça, si vous vous approchez le service de cette manière-là, et peut-être vous avez servi jusqu'à maintenant avec cette attitude-là, comme l'attitude comme Dieu me doit quelque chose, regarde comment je le sers, regarde comment je suis bon, regarde comment je devrais être récompensé pour ça, même les autres devraient me reconnaître. C'est comme si quelque chose nous est dû, vous allez finir par vous brûler, puis vous frustrer, puis vous fâcher contre les autres et contre Dieu. Vous allez penser que les autres ne sont pas assez reconnaissants à votre égard. Où est ma récompense, vous allez vous dire. Et ce n'est pas la grâce de Dieu qui vous pousse à servir de cette manière-là. Ça, c'est la religion. Mais d'un autre côté, vous pourriez approcher la question du service, puis certainement plusieurs le font déjà, avec le côté de l'irreligion, où là, on ne va pas se soucier de servir du tout, mais on va juste profiter des autres et des services qu'ils nous rendent. Et même ça, ça peut être quelque chose, une manière d'approcher le service où la grâce de Dieu est complètement absente. Ni la religion, ni l'irreligion ne peuvent remplacer la grâce de Dieu. Le service poussé par la grâce, c'est un service qui va être teinté de la reconnaissance pour la grâce de Dieu. Puis on va le faire avec joie. Fait que posez-vous la question, lorsque je considère servir ou dans mon service que je fais actuellement, est-ce que j'ai la joie de servir? Est-ce que je ressens cette joie de servir à cause de tout ce que Dieu a fait par sa grâce dans ma vie? À cause de tout ce que la grâce produit dans ma vie? À cause de tout ce que la grâce me pousse à faire? Vous savez, plus on comprendra la grâce de Dieu qui a été révélée, plus cette grâce-là va nous enseigner à s'éloigner de la religion ou de l'irreligion. Si vous êtes dans l'un ou l'autre, vous n'êtes pas dans la grâce de Dieu. On pourrait prendre un autre exemple comme l'éducation des enfants ou les relations que nous avons les uns envers les autres. Je n'aurai pas le temps de creuser chacun de ces sujets-là. Mais combien ça m'est arrivé dans mon ministère envers les adolescents, de rencontrer des adolescents qui ressentent une pression de leurs parents chrétiens, une pression de performer, une pression de devoir rencontrer les attentes chrétiennes de leurs parents. C'est normal que des parents veulent que leurs enfants agissent bien, tu sais, puis demandent pardon ou tu sais, disent s'il vous plaît, tu sais, ou soient moralement bons. Mais parfois, on s'attend de nos enfants qu'ils agissent comme des chrétiens alors qu'ils sont même pas, qu'ils ont même pas expérimenté la grâce de Dieu encore. Puis on met cette pression sur eux. Ils ressentent comme si finalement la vie chrétienne c'est une religion. Et donc, c'est un avertissement ou un encouragement à faire attention comment on interagit. Quel message qu'on envoie à nos enfants, finalement? D'autres parents, avec leurs enfants, ne se soucient même pas de ce que leurs enfants font. Ils leur laissent faire ce qu'ils veulent. Et ça serait comme l'irreligion, finalement. Et ça ne serait pas mieux. L'éducation des enfants poussée par la grâce, c'est complètement autre chose. C'est une éducation qui reconnaît que l'enfant a besoin d'être encouragé. Que l'enfant va faire des erreurs des fois, mais qu'il y a la place pour grandir, qu'il y a de la place pour faire des erreurs, puis se relever, puis continuer. Il est intéressant de voir que le plan rédempteur de Dieu répond aux questions les plus fondamentales de tout être humain. D'où je viens, qu'est-ce que je fais ici, et où je m'en vais? Puis ces trois questions-là sont vraiment, vraiment reliées. Ce qu'un croyant va faire ici sur terre est en lien direct, on a vu dans ce texte-là, avec ce que Jésus a fait dans le passé. Il est venu sur terre, il est mort à la croix. Puis c'est en lien direct avec qu'est-ce que Jésus est en train d'accomplir aujourd'hui par sa grâce. Il veut nous pousser à obéir à Dieu puis à lui plaire. Mais ce qu'un croyant fait ici sur terre est aussi en lien direct avec ce que Jésus va accomplir dans le futur lors de son retour glorieux. Et ce passage qu'on a vu ce matin, Tite 2, 11 à 14, décrit quelle est la relation que chaque croyant devrait avoir avec la grâce de Dieu qui a été révélée. C'est une attitude de reconnaissance pour ce que la grâce de Dieu a accompli dans le passé. C'est aussi une attitude d'obéissance pour ce qu'elle enseigne à faire dans le présent. Enfin, c'est une attitude d'attente et d'aspiration à ce qui s'en vient dans le futur, l'apparition de Jésus. La vie n'est pas constituée d'une poursuite effrénée de se faire approuver par les autres ou par Dieu. Elle ne se réduit pas non plus à poursuivre.